toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Nous vous accueillons ce soir pour l'émission Mode d'emploi, en ce quatrième vendredi du mois. C'est la Fondation Copernic qui prend les commandes. Au micro, on retrouve Corentin et Laurent Ludo aux manettes. On ne date pas les échanges au sein de notre espèce, nous humains, et il est également difficile de dater l'utilisation des premières monnaies. Mais la monnaie a permis de faciliter les échanges entre les personnes de plus en plus éloignées géographiquement, en jouant ce rôle important de tiers de confiance. Et ça a permis, au fur et à mesure du temps, d'échanger de biens de plus en plus divers. Depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, il y a eu de multiples évolutions. L'utilisation de l'argent a donc facilité le passage de l'échange de biens à l'échange de services et a contribué à l'élargissement des sphères économiques. Ayant pour conséquence forte et peut-être fâcheuse l'éloignement entre le producteur et le consommateur du service, du bien. L'argent est devenu de plus en plus virtuel par ailleurs. Au départ, c'était un support métallique et aujourd'hui, dans notre quotidien, les échanges se font par des simples jeux d'écriture, chèques ou par des mouvements électroniques, cartes bancaires, virements. Mais le principe est toujours le même, c'est notre tiers de confiance. La monnaie est devenue source de spéculation aujourd'hui, et les échanges monétaires sont de plus en plus déconnectés de la réalité des échanges commerciaux. Cette décorrélation est peut-être un problème dans notre société en manque de sens. La fonction spéculative a pris le pas sur la fonction d'échange, créant des mécanismes de paupérisation et d'exclusion. Ce soir, nous allons nous éloigner de tout cela. Et partir à la recherche, peut-être, de ce sens et de ce lien perdu. Nous allons nous poser la question des échanges non marchands. Nous allons nous installer autour de cette table et comprendre si nos intervenants nous donnent cet éclairage, comment s'est créée cette économie non marchande, quelles en sont les différentes formes et comment se développe-t-elle, quels en sont les acteurs et les utilisateurs. Puis nous nous poserons la question de son fonctionnement quotidien au travers d'invités autour de cette table une fois de plus et de voir comment cela s'échange, ces échanges se développent et à quelle échelle. Et puis on se posera la question en perspective. Peut-on envisager de généraliser ce type d'échange? Quels en sont les risques, les travers éventuels? Et la question peut-être présomptueuse, peut-on se passer d'argent ou en tout cas dans quelle mesure? Pour en discuter autour de la table, là en l'occurrence pas autour de la table mais au téléphone, Jean-Michel Servet, professeur en études du développement et à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, vous êtes intéressé à l'économie solidaire, à la finance, aux monnaies ainsi qu'au microcrédit. Parmi vos
Bonsoir.
Parmi vos dernières parutions, La révolution du microcrédit aux éditions Odile Jacob et Les monnaies du lien à la presse universitaire de Lyon. Et puis, autour de notre table, Mireille Legendre, membre du CEL de Montreuil, qui nous partagera son expérience dans cette structure. Comme toutes les émissions précédentes, vous pourrez télécharger celle de ce soir sur le site internet de la Fondation Copernic ou la réécouter mercredi prochain au réveil à 7h.
Pour commencer cette émission, je vais poser une première question peut-être à Jean-Michel Servet en matière pour introduire un peu le sujet de ce soir. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes formes d'échanges non marchands que l'on peut rencontrer?
Alors, ça dépend si on se situe dans une perspective historique, parce que là, on pourrait en trouver des milliers, etc., ou si on regarde uniquement dans nos propres sociétés. Alors, ce qu'on appelle en général des échanges non marchands, ça veut pas. Y a le mot échange. Alors, il y a une ambiguïté autour de marché. Ce que l'on entend en général par échange non marchand, c'est le fait que ces échanges ne soient pas soumis centralement à un principe de concurrence et que la propriété privée est en quelque sorte encadrée par une logique de bien commun et c'est pas une exacerbation en quelque sorte de l'enrichissement personnel. Voilà à peu près comment je le définirais. Alors à partir du moment où on a donné en quelque sorte cette restriction, alors évidemment, et on va en parler ce soir, on a l'ensemble des systèmes d'échange local sous différentes formes qui se sont ont connu une forte croissance depuis un certain nombre d'années à travers la planète. Et puis même d'une certaine façon, les nouvelles monnaies locales complémentaires, eh bien, vu les finalités que leur donnent un certain nombre de leurs promoteurs, participent en quelque sorte à la fois du marché, mais d'une logique qui est en quelque sorte non marchande. On peut même avoir des logiques de financement participatif où il y a cette logique qui n'est pas l'enrichissement personnel. Voilà à peu près comment, pour être bref, je définirais les choses. Les circuits courts, par exemple, en matière d'alimentation, bah évidemment, c'est un marché d'une certaine façon. Mais il y a une logique non marchande derrière ceux qui en font la promotion et qui les utilisent.
D'accord. Donc on a plusieurs systèmes. Alors est-ce que peut-être avant de passer la parole à Mireille Legendre, peut-être la différence avec entre par exemple les clubs de troc ou les SEL, hein, quand on va parler de SEL dans cette émission, c'est les systèmes d'échange locaux. Peut-être Jean-Michel Servais, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les différences de fonctionnement?
Alors, si on regarde uniquement les systèmes d'échange local, LETS en anglais, etc., il y a en quelque sorte un historique sur lequel il faut s'appuyer. Au départ, on a, j'entends, il y a une trentaine d'années, ça a démarré au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, puis vers 95, c'est venu en France. On a des échanges, je dirais, de biens, hein, c'est sur le système. Et puis, en Italie, se sont développées des banques de temps, c'est-à-dire des mises au sein d'un groupe, d'un service. Et quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement des systèmes d'échange local, bien sûr, il y a des échanges qui sont des échanges de biens, mais il y a une plus grande partie, me semble-t-il, qu'autrefois, qui sont des échanges de services. Alors, je sais pas, le degré de connaissance, en quelque sorte, que les auditeurs en ont, il faut comprendre, les gens adhèrent à un club, en quelque sorte, et vont proposer un certain nombre de services. Et il y a un principe fort qui s'est mis en place progressivement, notamment en France, c'est sur la base une heure d'activité égale une heure d'activité. Voilà. Donc on peut trouver le cas de Montreuil sera sans doute présenté avec de nombreux exemples qui mériteront un peu de mettre de chair à ce que je viens de dire.
D'accord, merci pour ces précisions. Peut-être Mireille Legendre. Alors, sans entrer dans le fonctionnement tout de suite, on y reviendra tout à l'heure, mais peut-être sur vous, comment vous vivez. Enfin, est-ce qu'il y a une dynamique un peu des systèmes d'échange locaux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu se développer? Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un dynamisme quel est un peu comment vous l'avez ressenti?
Bonjour à tous. Moi, je le connais depuis un certain nombre d'années. Je les ai connus au Vence par hasard. J'ai trouvé ça formidable. Et à ce jour, nous sommes plus de 500 SEL en France, par exemple.
D'accord. Oui.
Donc, effectivement, il y a un dynamisme de ces échanges de plus en plus fort. Et moi, je trouve ça assez sympa. Voilà.
Vous voyez des gens se joindre à votre SEL. Il y a un vrai renforcement de ce côté-là?
Tout à fait. Il y a des gens qui s'intéressent, bien sûr, à cette économie parallèle, qui est d'échanger sans argent, alors que nous sommes dans une société complètement submergée par tout ce qui est échange d'argent. Donc ça permet de faire des échanges gratuits, aussi bien de services, de savoir que de biens.
Et du coup, les gens qui vous rejoignent, est-ce que dans le système actuel, il y a des causes que vous identifiez, un contexte qui fait que les gens se retrouvent de plus en plus dans des systèmes d'échange, de partage, en se dégageant de cette valeur financière, de cette monnaie ?
Bah, bien sûr, il y a des problèmes d'argent. Hein. On est en pleine crise, donc effectivement, il y a des problèmes d'argent. Il y a du chômage, il y a de la misère, il y a de la solitude. Donc les sales, ce qui est bien en premier lieu, c'est de créer le lien. Avant l'échange même, c'est de créer du lien. Et ça, c'est très enrichissant. Et les gens recherchent ça énormément, quelle que soit leur façon de vivre. Au départ, ils recherchent du contact, du lien. Voilà.
Ce sont des... D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup frappé hein, quand j'étais membre des SEL, quand je vivais en France, etc. Donc on était à la fin des années 90. Quand on se retrouve dans un groupe de membres de SEL, on ne se définit pas par sa profession. On se retrouve avec un prénom en quelque sorte et progressivement on connaît les gens. Mais l'identité du travail, notamment compte tenu du chômage, n'est pas la première identité qui est donnée en tant que membre du groupe.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait ça. Quand on reçoit les gens chez nous, on leur demande pas ce qu'ils font dans la vie, etc., quel est leur métier, etc., leurs ressources. On s'en moque complètement. Ce qu'on veut avoir, c'est un prénom. Et puis, savoir un petit peu ce qu'il attend de ce genre de rencontres et de systèmes.
D'ailleurs, les crises ont... Enfin, on peut penser à l'Argentine avec les clubs de troc en Argentine, où vous me disiez en préparant l'émission qu'en Grèce aussi, en ce moment, on a beaucoup de ces mouvements qui se...
Tout à fait, les mouvements sont en train de se créer en Grèce avec la crise actuelle. Et ils sont en train de reproduire ce qu'a fait l'Argentine et la Turquie à l'époque. Quand ils ont fait faillite, c'est que là, ils sont dans une telle détresse qu'il faut trouver quelque chose pour survivre, pour essayer de vivre à peu près correctement. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, maintenant, ils n'ont même plus de chez eux. Ils ne mangent plus. J'écoutais l'autre fois une émission, un pharmacien qui n'avait plus de travail. Donc, il se regroupait avec des infirmiers, avec tout un tas de gens, et il donnait gratuitement des soins. Parce que les gens ne peuvent même plus se soigner. Donc, ils ont aussi ce système d'échange local. Ils commencent à se créer autour d'eux des selles, des endroits où ils peuvent se retrouver, créer du lien, et puis essayer de surmonter cette crise.
Jean-Michel Servet.
Alors, ce que je dirais sur ce plan-là, c'est vrai, on retrouve le même phénomène en Espagne, je dirais, pour les mêmes raisons. Mais il y a toute une partie des selles qui ne sont pas des instruments de lutte contre la pauvreté, mais des instruments de convivialité, hein, il faut le reconnaître. Et alors, il y a quelque chose d'extrêmement frappant. Quand quelqu'un, qu'on peut dire de relativement nanti par rapport aux populations qu'on vient d'évoquer, devient membre d'un SEL, il y a deux choses qui se posent à lui. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux bien proposer aux autres, en dehors de ce que je sais faire dans mon activité professionnelle? Donc ça, c'est aussi une reconstruction de son identité utile pour sa communauté de vie. Et puis, il y a aussi l'idée, quels sont les besoins que je vais avoir et en quelque sorte que je ne vais pas prendre dans le marché. C'est quelque chose d'extrêmement frappant, en quelque sorte, qui est une sorte de pédagogie, hein, quand on participe à un SEL et qu'on n'est pas dans des situations d'exclusion qu'on vient d'évoquer, enfin ceux qui ne sont pas, qui ont la chance de ne pas l'être, hein, et ils sont quand même assez nombreux dans les systèmes d'échange local, c'est vraiment une reconstruction aussi de l'identité et du rapport aux autres.
On y reviendra dans la seconde partie où je pense que Mireille donc partagera son expérience. Jean-Michel Servet, d'une façon générale dans le monde, est-ce qu'il y a des endroits, des lieux, des conditions qui sont plus propices à la création de ce genre de volonté de partager?
Alors, pour ce qui est des systèmes d'échange local, c'est-à-dire de constituer des autres façons d'échanger qu'avec la monnaie. Il y a quelque chose d'extrêmement frappant, je pense, c'est que ceci, c'est pas exclusif, mais ceci est surtout développé en Europe occidentale et en Europe, je dirais, et en Amérique du Nord. Ça l'est beaucoup moins dans des pays en développement où on pourrait se dire, mais enfin, ça pourrait être très très utile puisqu'ils connaissent des pénuries. Et je me rappelle, il y a un certain nombre d'années, il y avait des travailleurs sociaux qui avaient voulu monter à Oyonnax des systèmes d'échange local, un système d'échange local impliquant des populations assez pauvres, entre guillemets, qui travaillaient dans la Plastic Valley, etc. Et ces populations turques ne comprenaient absolument pas la nécessité de construire un monde en dehors du monde monétaire. Parce que, et j'ai longtemps travaillé en Afrique, j'ai vécu en Inde, etc., la monnaie est pensée non pas comme un élément d'individualisme, mais véritablement comme un élément qui fait le lien social. Donc ils comprennent pas pourquoi il faut utiliser un autre élément, puisque pour eux, la monnaie, c'est un élément, je dirais, ils ont parfaitement raison, ils ont gardé cette mémoire, c'est un élément du lien social. Donc ces systèmes d'échange local, tels qu'on vient de les lettres, etc., c'est un système du monde, je dirais, développé. Et puis il y a des expériences de développement pour ce qui est des monnaies complémentaires, ça c'est autre chose, notamment avec l'expérience de Las Palmas au Brésil. Mais on est dans un autre système.
Oui, de toute façon, effectivement, les gens sont complètement formatés avec l'argent. Ça, c'est évident. Mais après, comme vous le disiez, les gens qui viennent nous voir dans les selles, qui ont entendu parler des selles et qui sont intéressés, après, c'est toute une éducation, si vous voulez, à faire pour leur expliquer comment ça fonctionne et pourquoi on le fait. C'est ça, il faut déjà qu'ils aient une idée de faire quelque chose de différent de ce qu'ils font habituellement. Mais après, il faut leur expliquer exactement comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui arrivent. Voilà, moi j'ai besoin de refaire ma cuisine, j'ai besoin de faire... C'est pas ça l'idée d'essai. L'idée, c'est de créer effectivement du lien. Puis après, d'échanger. Donc ça veut dire savoir recevoir et savoir donner. Alors parfois, il y en a qui savent donner et pas recevoir, et l'inverse. Donc c'est une éducation qu'il faut faire.
D'accord. Donc on va revenir un peu là, tout à l'heure sur le fonctionnement de ces selles. On va tout d'abord avoir notre première pause musicale avec Noir Désir.
Mode d'emploi version Fondation Copernic. Nous intéressons ce soir aux échanges non marchands. Petite information de Laurent sur Copernic.
Oui, c'est l'heure de la Minute Copernic. Donc, la Fondation Copernic participe notamment à l'initiative Chantier d'Espoir, dont l'objectif est de reconstruire une perspective commune face aux inégalités, à la stigmatisation, au déclassement et à l'abandon de certaines classes de la population. Ça se passe le samedi 11 avril, donc il y a des réunions dans toute la France. Et à Paris, on peut citer la réunion qui est à l'espace Charenton de 14h à 18h le 11 avril. Également en avril, donc, il se trouve qu'il y a la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, donc une initiative de la Fondation Copernic que l'on peut citer à Venelles en Bouches-du-Rhône, avec l'organisation d'une rencontre sur la construction d'une culture sur la prévention, sur la santé et la sécurité au lieu de travail. Et puis, vous pouvez toujours retrouver en ligne hein, sur le site de la Fondation Copernic les notes produites par la Fondation, et notamment une note sur le libéralisme devient local avec François Hollande, avec une analyse du projet de loi sur les compétences, la loi NOTRe. Donc on va revenir au sujet de ce soir.
Effectivement, on va se focaliser sur le fonctionnement et nous tourner vers Mireille pour qu'elle nous dise peut-être comment ça fonctionne au sein de son sel, quelles sont les principales règles qui sont établies dans ce cadre-là. Et puis quel est votre rôle au sein de ce sel de Montreuil?
D'accord. Mais écoutez, en fait, l'organisation est toute simple. Nous sommes Nous sommes sous association loi 1901, donc déclarée en préfecture. D'accord. Il y a différentes formes de structures. Enfin, nous, on fonctionne comme ça. Il y a aussi les collégiales, mais c'est autre chose. Donc, nous, il est nécessaire d'avoir un bureau avec un président, une trésorière, et puis secrétaire, et puis d'autres personnes. Voilà, ça fonctionne comme ça. Moi, j'ai été plus de 10 ans présidente du Céleste de Montreuil. Maintenant, j'ai passé un petit peu la main, mais je suis toujours dans le bureau et je m'occupe de tout ce qui est communication. Voilà. Donc, c'est une équipe assez sympathique. Et puis, nous essayons de promouvoir donc notre sel un peu partout, à chaque rencontre, même amicale.
C'est
comme ça que ça fonctionne.
Et alors, comment ça se passe quand une nouvelle personne arrive pour s'inscrire au sel? Comment elle s'insère un peu dans la structure?
Alors, nous avons une réunion mensuelle. Donc, nous invitons les gens à venir discuter avec nous, écouter. On leur explique exactement comment ça fonctionne. Donc, à savoir que les services et les savoirs, c'est basé effectivement sur le temps. Donc, une heure de service et de savoir est égale à 60 unités.
D'accord.
Hein? Alors, tout est basé sur le même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des échanges mieux que d'autres. Donc, quelqu'un qui voudra apprendre un cours d'anglais, de musique ou autre chose, sera exactement 60 unités de l'heure, mais celui qui fera, par exemple, les bitres ou donnera un petit coup de balai ou quoi que ce soit, sera exactement sur le même niveau. Donc, nous avons, nous, une cotisation à l'année qui est petite, qui est douce, de 12 euros.
Pour le fonctionnement, ouais.
Parce que nous n'avons pas de subvention et que nous n'en souhaitons pas.
D'accord, oui.
Et si on pouvait, il n'y aurait même rien du tout. Mais on est obligé quand même d'avoir un petit peu d'argent pour justement tout ce qui est documents, brochures, et qui coûte quand même assez cher et qu'on ne peut pas échanger ça, comme certaines choses.
Alors, comment ça se passe, les échanges concrètement? Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a un local et on vient? Est-ce que il y a des rencontres qui sont organisées? À quelle fréquence? Est-ce que voilà le rôle d'internet?
Alors au début nous avions un catalogue avec les offres et les demandes de chacun.
D'accord.
Nous réunissions donc une fois par mois effectivement avec un tour de table et chacun disait ce qu'il souhaitait offrir ou demander.
D'accord.
Ça fonctionnait comme ça. Donc après ils se mettaient en contact les uns avec les autres, prenaient rendez-vous. Et faisaient leur échange avec une feuille de richesse, donc une feuille d'échange où était marqué pour chacun l'échange qu'ils avaient fait avec leur signature. Et c'était après comptabilisé, c'était comptabilisé par quelqu'un qui s'occupait de ça. Et maintenant, nous avons un site, donc c'est plus simple, c'est sur Internet, effectivement. Donc, le même principe, offre et demande de chacun. Tout le monde peut le consulter, uniquement les adhérents.
D'accord.
Ce n'est pas consultable par d'autres personnes extérieures au sein. Et donc, les échanges se font de la même manière. Il peut y avoir des échanges aussi quand nous faisons des bourses d'échange locales, c'est-à-dire comme des brocantes, entre guillemets.
D'accord. C'est ce que vous appelez
argent.
Les blés, quoi.
C'est ça, les blés, bourses d'échange locales. Ouais. Alors, nous en faisons à peu près 4 par an.
D'accord.
Et effectivement, ça peut faire aussi de l'intercel, puisque nous invitons des sels amis, celles de Villiers-le-Bel, des sels de Pantin, des sels de Cergy, d'ailleurs, même ça peut être de la province. Une
D'accord,
amie
ouais.
qui vient de province peut venir échanger des choses avec nous.
D'accord.
Donc, ce sont des objets qu'on amène, des CD, des DVD, des petits meubles, enfin, toutes sortes de choses qu'on peut échanger gratuitement.
Et comment faites-vous pour l'intercel, en quelque sorte, pour passer la monnaie d'un groupe à un autre?
Parce voilà, c'est la question que j'allais poser.
nous avons donc notre unité, c'est la pêche, le fruit.
Oui.
Et une pêche est égale à un piaf de Paris, est égale à Boulet, à un cristal d'ailleurs.
D'accord, une heure.
C'est
une
la
heure.
Même valeur. Mmh. Une heure, une unité. Mmh.
Mais comment ça va se passer pour la personne qui vient du Piaf, hein, de
Paris, par exemple,
et
voilà.
qui va recevoir des pêches?
Et ben elle a une feuille, comme je t'expliquais tout à l'heure, elle a une feuille de richesse, une feuille d'échange, où les échanges sont faits de part et d'autre et signés de part et d'autre. Et ensuite, ils mettent sur leur compte leurs échanges.
Et donc, entre guillemets, par exemple, si elle prend un service, enfin, pas elle prend, mais elle bénéficie de... On va reprendre le cours d'anglais. 3 heures de cours d'anglais de la part de quelqu'un qui est dans votre selle à Montreuil. Mmh. Elle-même devra 3 heures au système d'échange, mais pas à Montreuil, mais à Paris, c'est ça ou...
Non, c'est pas ça. En fait, on n'a aucune... on est absolument pas obligé de rendre le service à la personne qui nous l'a donné. C'est à travers le groupe et ça peut même sortir du local puisque ça peut aller effectivement dans d'autres selles. D'accord. Si on fait un échange, par exemple, de jardinage, je fais une heure de jardinage chez quelqu'un, chez Jacques, on va dire. Jacques n'aura absolument pas s'il veut, bien sûr, il pourra le faire, mais il n'a pas l'obligation de faire un échange d'une heure de cuisine ou d'autre chose.
Jean-Michel Servet, c'est un fonctionnement qu'on retrouve ailleurs.
Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que pour aboutir à ce que vient de nous dire Mireille, si je me réfère à 15 années en arrière, ça faisait l'objet de beaucoup de discussions. Oui. Et d'ailleurs, ça reflète d'ailleurs le caractère très démocratique du fonctionnement des SEL, parce que ça n'a pas pu se mettre en place immédiatement, parce que certains étaient opposés à ce système. Alors, on peut être très surpris de ce système-là parce qu'on se dit il y a des dettes, il y a des créances d'un groupe à un
autre.
Mais il faut comprendre que dans une organisation SEL, la dette est une richesse pour les autres.
Complètement.
C'est-à-dire que si vous faites, c'est ce qu'on appelle la corne d'abondance en quelque sorte. C'est la grande différence avec le système bancaire actuel, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand, c'est le même principe que si on dit, mais mon Dieu, si quelqu'un meurt ou si quelqu'un part, alors il va laisser des dettes. Alors effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre absolu. C'est pour ça qu'en général, dans les groupes, on ne tolère pas que quelqu'un ait un million, si j'ose dire, de dettes. Hein. Il y a le souvenir du premier SEL canadien qui s'est effondré avec un déséquilibre trop important. Mais autrement, si la dette, en quelque sorte, qui est laissée n'est pas très très importante, c'est une créance des autres. Et comme c'est une créance des autres, ça va d'une demande à l'ensemble du groupe. Et ça devient, en quelque sorte, une richesse collective.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous, en fait, c'est basé sur la confiance, en fait, aussi. Hein. Ça, c'est très important. Oui.
Et au SEL de Montreuil, du coup, est-ce qu'il y a des règles, des limites à dépasser?
Oui, il y a des limites,
dépasser.
Tout à fait. Ouais. On a fait des limites. En débit, c'est pas plus de 3 000. Et en crédit, pas plus de 8 000. Alors pourquoi 8 000? Parce qu'au départ, c'était... Vous savez, on s'améliore à chaque fois d'année en année. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des personnes d'un certain âge qui n'avaient pas grand besoin. Mais ils avaient tellement de choses à transmettre qu'il fallait pas les bloquer sur 3 000 unités. Donc on a un petit peu augmenté... Et ça se passe très très bien. On améliore à chaque fois, on rétablit un petit peu les choses au fur et à mesure du temps et comment ça se présente.
Et le profil des personnes qui viennent à votre SEL, c'est varié?
C'est très varié, il y a de tous les âges, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent plus, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui sont souffrants, il y a de tout, hein. Il n'y a pas de... On ne peut pas faire... c'est pas, le celliste n'est pas un personnage type. C'est toutes les parties de la société, c'est toutes sortes de gens qui viennent parce qu'ils sont intéressés par ça.
Alors évidemment de la société locale, c'est-à-dire que voilà, si on prend un SEL dans l'Ariège, il va pas avoir le même profil avec des néo-rubaux que dans un SEL urbain, quoi. Donc c'est-à-dire que le profil, évidemment, il est déterminé par la localité, par le territoire dans lequel est implantée cette communauté.
Et on a combien de personnes par SEL, à peu près?
Alors ça, c'est variable. C'est très variable parce que si vous regardez dans la ville de Paris, à ma connaissance, alors là je parle sous le contrôle de Mireille, il y a toujours que deux SEL ou quelque chose comme ça. Et puis si vous prenez l'agglomération lyonnaise, il y en a beaucoup plus. Donc ça dépend en quelque sorte du nombre de membres et ça c'est variable selon les communautés. On n'a pas exactement les mêmes éléments. Mais quand par exemple vous avez, il peut y avoir des SEL où il y a une soixantaine de membres. Mais en fait, quand vous regardez, il y en a 20 qui sont surtout actifs. Il ne faudrait pas imaginer que c'est des communautés de 10 000 personnes.
Oui, parce que j'imaginais tout à l'heure quand Mireille nous disait, on se retrouve autour de la table et chacun nous dit, on échange sur les besoins et les capacités de chacun à proposer un service. C'est vrai qu'il ne faut pas être 450 autour de la table.
Alors ça demande une bureaucratie assez importante, ce qui était le cas du Tauschring allemand de Berlin. Je crois qu'il a eu jusqu'à 2000 membres. Hein. Je ne sais pas où ça en est actuellement, mais c'était quelque chose d'énorme. Hein. Et aux Pays-Bas aussi, vous aviez des cercles d'échange de ce type qui comprenaient une population beaucoup plus grande que ce qu'on peut comprendre dans de nombreux SEL français. Je ne sais pas combien il y a de membres à Montreuil, par exemple. Ça serait intéressant.
À Montreuil, fin de l'année dernière, nous étions 85.
Voilà, c'est...
Voilà, mais effectivement, je suis d'accord avec vous, il n'y en a qu'une partie qui fonctionne vraiment. Bon, on va dire au moins entre 40 et 50 %.
Voilà.
Et pour en revenir sur ces SEL internationales, on parlait des principes. Est-ce qu'ils sont adaptés de la même façon partout? Est-ce qu'il y a des différences? Par exemple, l'équivalence une heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est... unanimement accepté?
Ce que je dirais, c'est que ça n'a pas toujours été le cas en France. Hein. Il y a eu de très très nombreuses discussions et j'ai été très très frappé. J'avais été à l'Intercell d'Annecy il n'y a pas si longtemps que ça et il y avait quelqu'un avec une forte conviction. Il y avait un membre des celles qui avait dit dans notre celle, une heure égale 60 minutes. Alors tout le monde avait applaudi en rigolant parce qu'effectivement, mais elle voulait dire qu'il y avait un principe d'égalité. C'est ce qu'elle voulait dire, mais la façon dont elle avait formulé était un peu drôle. Mais ça, ça a été un processus de construction hein, dans les celles. Français. Et donc, c'est pas universel. Il peut y avoir des différences qu'on observe, en quelque sorte, hein, sur ces éléments. Je dirais que dans le monde anglo-saxon, on a des systèmes d'échange local. C'est la même chose pour les monnaies complémentaires, plus pragmatiques, je dirais. Donc, il y a moins de limites de certains échanges, etc., qui peuvent apparaître. Je me souviens, parce qu'il y a une discussion à propos de problèmes pratiques, mais qui peut aboutir à des choses plus générales sur ce qu'il est possible d'échanger. Et je me souviens, quand j'en étais membre dans l'agglomération lyonnaise, il y avait eu des discussions, puisque certains refusaient, et ça avait été voté, qui avait refus, les transactions, si j'ose dire, sur des animaux, notamment des poissons rouges, ou des chats, ou des chiens. Parce qu'on dit, on ne fait pas la transaction d'êtres vivants. Hein, voilà. Donc il peut y avoir des limites, et ça reflète les cultures, les sensibilités, les moralités qui
de
sont différentes
groupe.
D'un lieu à un autre.
Et alors, il y avait une question sur un peu, donc on échange des services, on voit bien, quand on échange une heure d'anglais contre une heure de ménage ou etc. Par contre, quand on échange des produits, par exemple un manteau, un pull qu'on va confectionner, on a une matière première. Alors comment on traite ce cas-là ?
C'est du gré à gré, tout simplement.
D'accord.
C'est du gré à gré.
Alors, c'est un peu comme si vous cédez quelque chose au bon coin, ou si vous faites un vide-grenier, vous me poseriez la question des prix qu'on voit affichés, ils sont extrêmement variables. Hein. Donc, on est, il y a une variation. Alors, c'est différent pour des produits qu'on revend, enfin, qu'on recède, si j'ose dire, ou des produits qu'on fabrique. Parce que dans le produit qu'on fabrique, il y a un certain temps, etc. Tandis que si vous avez un manteau que vous jugez que vous avez suffisamment mis, mais qui pourrait servir à autre chose, le prix peut être très variable, et il peut varier aussi, comme le dit notre ami, de gré à gré. C'est-à-dire que selon la personne avec laquelle vous le cédez, vous allez le céder à un prix variable, parce que vous savez qu'elle a la capacité, en quelque sorte, de donner plus, ou qu'elle se trouve dans une situation de difficulté. Je crois que ça, c'était très important. Dans certains systèmes d'échange local, vous pouvez avoir certaines personnes qui font des activités gratuites. C'est-à-dire qui ça existe aussi, hein, il faut pas le voir, parce que elle dit bon, il va y avoir une unité symbolique en quelque sorte, hein, pour dire qu'on cède quelque chose, mais voilà, hein, ça existe aussi. Hein.
Mireille, je vais poser une question qui peut être bête et peut-être choquante pour les personnes du salle, mais on peut se poser, avec un peu de recul, la question quelle est la différence en fait entre dépêche, qui est une unité de mesure de travail, et l'euro, qui est une unité de mesure qui permet d'échanger. Quelle est, pour vous, en tout cas, la différence entre les deux, et qu'est-ce qui fait l'avantage et pourquoi vous choisissez ?
Ça n'a absolument rien à voir, puisque l'euro, c'est de l'argent qu'il faut gagner, hein, théoriquement, il faut le gagner. Donc, et puis parfois on n'en a pas, alors que la pêche, c'est pour valoriser l'échange, en fait. C'est pour, comme je vous l'expliquais précédemment, que les gens se disent, voilà, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose de ma vie. J'ai transmis des savoirs. Et ça valorise énormément les gens. Parce que le don, c'est une chose, c'est encore autre chose, ça, le don. Mais ça, de valoriser un échange, c'est très important. Pour la plupart des gens, certains en grosse difficulté, qui se trouvent hors société, qui estiment qu'ils savent plus rien faire, qu'ils savent plus... Voilà, ils servent à rien, voilà. Et ben là, ils servent à quelque chose, parce que justement, on leur fait voir que en eux, ils ont énormément de richesses. Ils savent faire plein de choses, et pas spécialement dans leur domaine professionnel, bien évidemment. Ça peut être dans tout un tas de domaines.
Donc, on a un rôle social très important.
On a un rôle aussi social, tout à fait, tout à fait.
Pour fixer cette différence, je dirais la chose suivante. Une unité monétaire d'un système d'échange local est créée par l'échange lui-même entre les gens. C'est ça qui fait cette unité, puisque c'est une unité de mesure. Quand on regarde le processus de création monétaire, il se fait comment ? Il est né de la pénurie et il se fait essentiellement aujourd'hui, non pas par l'État qui fait des pièces et des billets, ça c'est une image jolie, il se fait comment ? Il se fait par la création, par les banques commerciales, par le mécanisme du crédit. Et si vous n'avez pas la capacité de garantir le prêt, eh bien, vous ne créez pas la monnaie, d'où la crise, hein, d'une certaine façon. Donc c'est une différence essentielle, puisque la monnaie type euro naît en quelque sorte d'un mécanisme de rareté, hein, alors que la monnaie locale naît par l'abondance que créent les membres au sein d'une communauté locale.
Donc on a, disons que chaque unité, donc ici les pêches, correspondent à un véritable échange, là où dans le système monétaire aujourd'hui, on a une masse monétaire nettement plus importante que la réalité des échanges commerciaux, par exemple.
Ah bah, 92% des masses financières circulant sur la planète correspond à des éléments spéculatifs, anticipatifs, appelons ça comme on veut. Mais on discute si c'est 3%, 5% ou 8%, mais les flux monétaires sont sans commune mesure aujourd'hui dans l'économie standard avec la réalité des échanges. C'est un élément de la crise qui naît aussi de la croissance considérable du capital financier et des inégalités. Puisque vous ne pouvez pas accumuler d'une certaine façon des unités monétaires, bon, c'est limité d'une certaine façon, hein, Mireille l'a expliqué, mais je veux dire, il n'y a pas de raison d'accumuler ces unités-là. Je me souviens, il y avait eu quelque chose d'assez amusant au moment où on discutait de la légalisation ou de la reconnaissance légale. Il y a eu un procès dans l'Ariège qui a été assez célèbre, hein, pour savoir si on pouvait se livrer à ce genre d'activité. Et il y avait le premier juge qui comprenait rien au mécanisme et qui avait fait rire la salle entière parce qu'il avait dit, et donc il avait fait condamner, hein, mais en appel, ils n'ont plus été condamnés parce que le juge avait plus d'intelligence, et le juge avait fait rire la salle parce qu'il avait dit « Mais c'est très très dangereux ce que vous faites là, imaginez que quelqu'un parte avec la caisse ». Alors tout le monde avait éclaté de rire parce que effectivement, qu'est-ce que ça signifierait ? Il partirait avec les livres de comptabilité. Enfin, il pourrait.
Il n'irait pas très loin.
Il n'irait pas très loin avec ça.
Enfin, à Montreuil, il aurait quelques kilos de pêche.
Oui, c'est ça. Mais il pourrait pas les faire valoir. Mais le juge avait absolument pas compris le mécanisme.
D'accord. Ouais. Très bien. Donc on va s'arrêter quelques minutes pour une pause musicale et on reviendra pour la fin de l'émission. Donc on va écouter Dire Straits, Money for Nothing.
Sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi version Fondation Copernic s'intéresse encore pour une petite 20 minutes aux échanges non marchands. On a commencé à l'aborder dans la deuxième partie, les limites, les règles. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, on en parlait un peu pendant l'intermède musical. Y a-t-il des problèmes que vous rencontrez au quotidien ? Qu'est-ce que vous faites pour vous en prémunir, Mireille ?
Il n'y a pas vraiment de problème que nous rencontrons, mais enfin, nous avons des règles, et c'est vrai que tout le monde est bienvenu dans notre salle, sauf certaines personnes qui pourraient penser faire du clientélisme, par exemple, ça peut arriver, imposer une politique ou une religion, ça, c'est, les gens ne sont pas bienvenus, ça c'est clair. Mmh. Voilà.
D'accord, donc vous êtes vigilant à l'entrée, tout le monde adhère bien au principe et voilà et que.
Et s'il y a un souci quelconque, on demande à la personne qui fait l'échange de nous en parler au responsable. Puis à ce moment-là, on voit avec la personne ce qu'il en est. Et si elle persiste, ben, elle peut être exclue.
D'accord. Voilà. Ouais.
Ça n'est jamais arrivé, mais voilà.
Jean-Michel Servet.
Il y a une dizaine d'années, il y a eu un problème en région parisienne avec une tentative de l'Église de Scientologie
d'interdire
certains sels. Donc ça a existé. Hein.
Mais
les sels se sont très très rapidement, parce que c'est un organisme collectif hein, d'une certaine façon, rendu compte de la chose et le problème a été résolu comme ça vient d'être expliqué.
On s'est battu d'ailleurs avec Monsieur Brard qui était à l'époque maire de Montreuil et qui justement travaille contre la Scientologie. Et alors, l'histoire drôle, c'est qu'en fait, moi, j'avais lu un article où il y avait justement le sigle de la Scientologie qui s'appelle CEL aussi, et qui, manque de chance, leur boutique était rue Legendre, qui est mon nom. Alors, c'était
ça
vraiment...
Ça faisait beaucoup,
oui.
Les éléments à charge.
C'était vraiment très désagréable.
Alors, j'avais une question sur... Bon, on voit qu'on a un certain nombre d'échanges, mais alors aujourd'hui, je sais pas, monsieur Servet, est-ce qu'il y a est-ce qu'on arrive à savoir un peu, je sais pas, quel pourcentage de l'économie entre guillemets ou les pourcentages des échanges est non marchand? Est-ce que
alors ça c'est une question très très difficile parce que on peut faire rentrer dans le qu'est-ce qui n'est pas déclaré, donc c'est plutôt ça qui intéresse les statistiques hein, qui...
oui
alors là ça peut donner tout parce que les activités de la mafia sont pas des activités déclarées hein,
tout à fait
donc il y a un redressement ce que je dirais sur quelque chose comme les systèmes d'échange local, ce qu'on est absolument certain, c'est que ce type d'échange ne dépasse pas dans aucun pays, sauf situation de crise comme la crise d'Argentine, hein, où là c'est quelque chose d'entièrement différent, mais ne dépasse pas 1% du revenu national. Parce que sinon, ça apparaîtrait dans les enquêtes qui sont faites par l'INSEE dans un pays tel que la France. Hein, donc on est sur ces éléments. Mais ce que je pense, évidemment très souvent les politiques, surtout quand ils soutiennent un certain nombre d'endroits, il y a des soutiens hein, qui sont apportés, le logistique, ces organisations, ils veulent de l'effet en quelque sorte et ils le mesurent par des critères économiques. Je suis de ceux qui sont convaincus que c'est pas en mesurant le nombre d'échanges que les gens font qu'on a l'impact de ce système d'organisation. Parce que ce qu'il y a d'extrêmement important, c'est une nouvelle façon de regarder sa consommation, de regarder le rapport aux autres qui est apporté par ce type de démarche. C'est exactement la même chose pour quelque chose qui est parallèle sur les monnaies complémentaires. Hein, les monnaies complémentaires par rapport, si on prend l'exemple de Las Palmas au Brésil, hein, c'est-à-dire que ce sont des coupons hein, qui circulent, hein, c'est un système différent de la comptabilité des systèmes, ça ressemble à des billets d'une certaine façon qui circulent, ça peut aussi se faire en Angleterre par des transactions, par des téléphones portables. Donc là, on pourrait dire, on va mesurer combien la monnaie circule. Alors, on s'aperçoit qu'une monnaie complémentaire circule 4 à 6 fois plus que la monnaie nationale type euro ou la monnaie brésilienne.
Qu'est-ce que vous voulez dire par circule ?
Ce qui change, ce sont les mentalités. C'est-à-dire que les gens vont repenser les circuits courts. Ça c'était essentiel. C'est-à-dire, ils vont penser qu'il faut consommer local.
Oui, les monnaies restent dans le lieu, dans le territoire dans lequel elles sont
c'est
définies.
C'est ça qui a des sens.
C'est ça l'intérêt, oui.
Voilà, c'est-à-dire que si on regarde le nombre de fois où ces unités circulent, c'est relativement faible, mais on va s'apercevoir, et c'est le cas de Las Palmas au Brésil, que les gens retournent vers le commerce local. Et ça, c'est essentiel.
D'accord. Alors, pourquoi je posais cette question, en fait, de ce que ça couvrait de l'économie, c'était pas pour avoir un chiffre, mais c'était plus pour est-ce que jusqu'à quel niveau on peut développer ces échanges. On se dit bon bah c'est un système très intéressant, ça permet de développer le lien social. Et qu'est-ce qui finalement fait que bah on est, comme vous dites, à moins d'1%?
Alors ça c'est les statistiques telles qu'elles sont observées. Si je comprends votre question, c'est quel serait le maximum que ça pourrait atteindre?
Alors c'est pas forcément les chiffres, mais c'est plus pourquoi
comment développer
comment développer davantage ou quelles sont les barrières ou les
Alors chacune des expériences est limitée. Mais ce qu'on voit aujourd'hui fleurir, c'est une multiplicité des expériences. Vous avez, on l'a pas évoqué jusqu'à présent, mais vous avez l'autoconstruction qui se fait. Vous avez l'occupation d'espaces urbains pour produire des biens alimentaires. Vous avez les boîtes de dons qu'on trouve dans des quartiers. Vous avez les systèmes d'échange local, par exemple, étaient parallèles au réseau d'échange de savoir. Et ils sont parallèles et complémentaires, si j'ose dire, aux monnaies complémentaires elles-mêmes. Donc c'est la floraison de toute cette expérience. Vous avez l'habitat coopératif qui est très très ancien en Suisse et qui est beaucoup plus récent en France. C'est toutes ces expériences qui comptent et qui s'accumulent les unes les autres pour en quelque sorte participer à un changement de fonctionnement des sociétés à travers des changements touchant à la consommation, à la production et aux échanges et au financement.
Mireille, vous
voilà, moi je pense qu'il n'y a pas du tout de limite. Hein, en fait, il n'y a aucune limite à ce que tous ces échanges de savoir circulent, aussi bien comme disait Jean-Michel, les réseaux d'échanges de savoir que des selles, que tout un tas d'autres choses. Il n'y a absolument pas de limite. Je pense qu'on pourrait développer ça à l'infini.
D'accord, oui. Alors. Hein.
En rapport aussi avec l'accroissement de la productivité du travail qui a depuis un siècle qui est considérable et qui doit se faire parallèlement, je sais bien que c'est très controversé, face à la diminution du temps de travail salarié.
Oui, parce que voilà, la limite, j'avais pensé à éventuellement deux limites, c'est effectivement le temps, enfin... est-ce que ça prend du temps d'être membre d'un CEL? Enfin, je veux dire, ces échanges, plus vous avez de temps, plus vous pouvez faire des échanges avec les gens.
Oui, mais c'est
ça vous prend du temps, mais ça vous libère du temps aussi.
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà, c'est l'un et l'autre, en fait.
C'est l'un et l'autre, hein, c'est les deux faces, en quelque sorte. Si j'ose dire, comme une pièce de monnaie, il y a deux côtés plus la tranche. Hein, donc, effectivement, ça vous prend du temps, mais ça vous en donne aussi. Et alors, ce qu'il y a de très, très frappant, je crois que ceci est extrêmement lié à la mobilité qu'on trouve dans les sociétés contemporaines. Je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, il a vraiment fallu qu'on argumente pour que les pouvoirs publics acceptent ce type d'échange. Parce que certains parlaient d'illégalité, enfin, il y avait tout, de fuite, hors des taxations, tous ces éléments-là. Et parmi les arguments, je pense, qui ont fortement porté, c'est on a simplement dit aux gens, quand vous utilisez votre voisine ou qu'elle vous utilise pour aller chercher une fois sur deux les enfants à l'école, ou garder vos enfants, ou vous partager un plat parce qu'elle le fait très bien, puis lui vous donnez, vous n'allez pas taxer la voisine. Enfin, je veux dire, vous taxez pas des membres de votre famille qui vont chercher les enfants.
Mais
on
bien sûr.
Dans des sociétés où on dit, genre, soyez mobile, vous n'allez pas de travail, vous habitez Marseille, allez donc habiter Lille. Bon, mais les gens connaissent personne quand ils arrivent à Lille, nécessairement, dans leur zone de travail. Donc, ils reconstituent une socialité que, disons, elle se fait naturellement si vous n'êtes pas déplacé et que vous avez vos copains d'enfance, vos membres de votre famille, etc. C'est en quelque sorte une alliance choisie avec d'autres. Alors, bon, c'est pas uniquement des gens qui se déplacent, mais il faut quand même penser à cet élément-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va taxer ce type de transaction alors que dans toute une partie de la société, ça se fait, si j'ose dire, naturellement par les communautés de vie dans laquelle on se situe.
Tout à fait. Et moi, une de mes questions, une question que je me pose, c'est est-ce qu'une des limites serait pas aussi notre vision un peu bornée des choses où on voit, il y a des exemples sur le covoiturage où au final ça devait être un échange de partage et puis il y a des gens qui essayent de transformer ça en gain monétaire. Est-ce que notre vision assez mercantile, assez basé sur la monnaie, ne fait pas que ça se développe pas autant que ça pourrait.
Mireille Legendre.
Non, moi je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Effectivement, si vous parlez du covoiturage, je vais vous dire que là c'est une chose qui effectivement n'est pas gratuite entièrement, puisque vu que la société est de plus en plus difficile et la vie surtout, on demande effectivement quelques euros pour le gasoil ou l'essence, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, hélas, nous ne pouvons pas proposer des pêches aux stations-service, etc. Donc ça, c'est une chose, mais c'est juste 2-3 euros. C'est simplement pour permettre à la personne qui aide son prochain de ne pas être de sa poche, parce qu'elle n'a pas spécialement les moyens. Voilà. Mmh. Donc,
et dans la légalisation des selles, ce qu'il faut comprendre, ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années, il y a un accord qui a été passé avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'un coiffeur pouvait entrer dans un système d'échange pour participer, parce qu'il avait un jardin, il faisait de la salade, parce qu'il faisait de la couture, etc. Mais il n'a pas le droit de proposer ses services de coiffure au sein du système d'échange local.
Hein, c'est, d'accord, c'est une, on ne peut pas se substituer aux professionnels.
Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas se substituer aux professionnels. C'est pareil, par exemple, un cours d'anglais, puisqu'on parlait de l'anglais tout à l'heure, cours d'anglais ne peut pas se donner tous les jeudis entre 4 et 7 à la même personne. Ça pourrait être considéré effectivement comme du travail au noir. Donc les coups de main ne peuvent être que ponctuels et les savoirs également.
Et ce n'est pas seulement des substituts du marché, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, dans un système d'échange local, vous pouvez apprendre de quelqu'un à fabriquer les nems.
Tout à
c'est
fait.
Pas très, très courant de trouver sur le marché, si j'ose dire, des cours de fabrication de nems. C'est-à-dire que vous trouvez des activités que le marché ne fournit pas.
Que le marché ne fournit pas ou qu'il serait impossible de suivre puisque ça serait beaucoup trop cher.
Voilà.
Une heure de, par exemple, de savoir d'apprendre à faire la peinture, apprendre à jouer du piano, apprendre. Bon, ça serait très très cher généralement et les gens ne peuvent pas suivre. Donc effectivement, c'est vraiment une grande richesse de pouvoir comme ça s'offrir des tas de services et des tas de savoirs basés sur la valeur du temps.
Et en même temps, ça valorise ceux qui le donnent et qui le produisent.
Tout
c'est
à
ça
fait.
Aussi qui est intéressant. C'est du côté, si j'ose dire, de la demande et aussi du côté de l'offre.
Oui, c'est aussi enrichissant pour l'offreur que pour le demandeur. Voilà. Tout à fait.
C'est, du coup, on se rapproche de la fin de cette émission. On va peut-être vous demander, pour conclure, un petit mot sur quelle serait la conclusion de cette émission pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez au CEL ?
Ben moi, je souhaite encore de super belles années, et même peut-être, pourquoi pas, dans l'utopie la plus folle, que ça passe au-dessus de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire l'argent. Voilà. Si on pouvait ne plus parler d'argent, quel monde merveilleux on pourrait peut-être avoir. Et moi, ce que je voudrais finir, c'est sur la phrase de François Théry, qui a créé donc le premier CEL en Ariège, qui disait « Notre vraie richesse, c'est le temps de notre vie ». Les quelques 750 000 heures que nous passons en moyenne sur cette terre, notre vraie richesse, c'est ça. C'est de faire des échanges et absolument pas basés sur l'argent.
Je suis très, très heureux d'entendre citer François Théris, hein, qui effectivement a été un initiateur, un militant.
Formidable.
Formidable. Hein, donc,
et on l'a rencontré cette année à l'Intercel, puisque c'était en Ariège.
D'accord, oui,
avec tout son groupe.
C'est toujours, je l'ai entendu au téléphone il y a 2-3 ans et avec beaucoup de plaisir. Ce que je souhaiterais en quelque sorte, c'est que les pouvoirs publics s'inspirent plus d'expériences de ce type pour comprendre la richesse de la société. Ça, c'est quelque chose de fondamental et c'est quelque chose qui a peut-être été oublié dans les solutions qu'on nous propose.
D'accord.
Ça, c'est quelque chose qui me tient en cœur, en quelque sorte. L'économie solidaire, c'est la construction de la démocratie à travers des activités de production et d'échange, et une sorte de décentralisation, en quelque sorte, de la démocratie économique. Et ça, c'est sans doute, dans les solutions qu'on nous propose, quelque chose qui manque beaucoup.
Très bien, ben merci pour ce mot de la fin. Donc
merci,
on va
beaucoup
remercier nos deux invités, donc Jean-Michel Servet et puis Mireille Legendre. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. Vous pouvez le retrouver également sur le site de l'émission Mode d'emploi. Prochain volet de l'émission Mode d'emploi version Copernic, le vendredi 24 avril, sur un autre thème qui sera la société de surveillance. On se quitte avec un dernier morceau de musique, Money des Pink Floyd.
Merci à tous.
Merci.